Cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 26 mai 94.
Nous allons continuer cette recherche en vue, comprenez bien, d'une philosophie de la famille et comprendre comment cette philosophie de la famille permet aux philosophes le passage de l'éthique personnelle à l'éthique politique. Je crois que c'est important à reprendre, non d'avant, en tenant compte de ce qui a été dit chez Aristote, qui est le premier philosophe de la famille. En philosophie grecque, c'est le premier philosophe. On ne peut pas dire que Hésiode est le philosophe de la famille. C'est le philosophe du travail. Et tandis qu'Aristote est le premier qui reconnaît qu'entre l'homme et la femme, entre l'époux et l'épouse, il doit y avoir une véritable philia, amour d'amitié. Et je crois personnellement que c'est une des raisons pour laquelle Thomas d'Aquin quitte Avicenne pour revenir à Aristote. Il y a des raisons, vous comprenez bien, pourquoi saint Thomas veut avoir quelqu'un qui lui donne un Aristote pur, et non pas un Aristote baptisé par le néo. Le néo-platonisme. Il y a une raison. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de l'intelligence, à cause de l'amour? C'est sans doute à cause des deux. Mais ça, il faudrait saisir. Pourquoi Aristote arrive-t-il à découvrir qu'entre l'homme et la femme, il y a une véritable amitié? C'est parce que il considère, à la différence de Platon, que l'âme créée par Dieu, elle est donnée à l'homme et à la femme. Tandis que chez Platon, on sait très bien, c'est une vision toute différente de la réincarnation. Alors, il y a un degré d'infériorité pour lui, et ontologiquement parlant, un degré d'infériorité de la femme par rapport à l'homme, puisque si l'homme se conduit mal, il se réincarne dans une femme, si la femme se conduit mal, il se réincarne dans un animal. Oui, c'est non pas l'évolution, mais la régression. Et puis alors l'autre évolution. Nous voyons avec la famille apparaître l'autorité. C'est quand même important pour se dire qu'est-ce que c'est que l'autorité et la distinction entre le pouvoir et l'autorité qu'il faut reprendre, puisque à partir de Occam s'est fait la confusion entre pouvoir et autorité. Et ceci, parce que c'est un fait, les erreurs, les blocages se transmettent beaucoup plus facilement que la vérité. Ça, c'est une constatation qui serait très intéressante à faire. Ouvrez un cahier là-dessus, un chantier là-dessus. Pourquoi les erreurs se transmettent si facilement? Vous allez me dire, parce que les erreurs, c'est plus facile. Oui, c'est l'imagination qui est à la source de toutes les erreurs, de tous les blocages, de toutes les amalgames, comme on dit aujourd'hui. C'est l'imaginaire. Alors que l'intelligence cherche la finalité, et que la finalité est qualitative. Et la quantité est nécessaire pour la transmission. Mais c'est pas ça qui doit se transmettre en premier lieu, c'est la qualité. C'est un fait, alors, que, avec la famille, le problème de l'autorité apparaît. Les parents ont responsabilité vis-à-vis de leurs enfants, non seulement de la naissance, mais de l'éducation. la cité. C'est la conception qu'on a de la personne humaine. Donc c'est toute une anthropologie qui est en question. Et, et cette anthropologie ne peut être découverte dans toute sa force que lorsqu'on comprend la finalité de l'esprit. Que c'est la personne. La personne implique l'âme et le corps. Et l'âme est spirituelle. Et l'âme étant spirituelle a une finalité propre. Et c'est pour ça que Dieu crée l'homme pour lui-même. Parce qu'il y a cette finalité. Tandis qu'au contraire, les animaux ne sont pas créés pour eux-mêmes. C'est l'espèce. La survie de l'espèce. Vous voyez, le rat, le petit rat n'a pas de finalité. Si ce n'est d'engendrer tout petit rat. Une finalité très bornée. Et très immanente. Mais très forte. Que l'espèce survive. Vous voyez. Et pour l'homme, c'est différent. La personne est au-delà de l'espèce. Elle a sa propre finalité. Ayant sa propre finalité, il peut y avoir une amitié qui le finalise. Et qui le finalise partiellement, mais qui le finalise. Et donc, il peut y avoir le couple. Et du couple, il y a le point de vue de la fécondité. Rattaché à l'amour. Donc il faut bien saisir ce nœud au point de vue philosophique et comprendre que dans l'amitié, au sens strict, il n'y a pas d'autorité. On ne peut pas fonder l'amitié, on ne peut pas fonder l'autorité au plan philosophique sur l'amitié. Parce que l'amour d'amitié fait que l'ami, les deux amis ont même vouloir. Ont même vouloir et même finalité. L'amitié n'est vraie que quand les deux amis ont même finalité. Si les deux amis n'ont pas la même finalité, l'amitié est bancale et elle ne dure pas. Donc la véritable amitié est au-delà du temps. Parce qu'elle touche justement à une finalité spirituelle. Alors au niveau propre de l'amitié, et alors, entre l'époux et l'épouse, au point de vue purement humain, c'est important, au point de vue chrétien, il y a le sacrement. Et le sacrement, quand on lit les textes de saint Paul, c'est pas commode de dire égalité absolue. Il y a des textes qui sont très forts. Que avant, on les lisait toujours à la messe du mariage. Mais il fallait prêcher là-dessus. C'était pas toujours commode. Maintenant, on peut choisir. Alors, je choisis plus beaucoup ces textes-là, parce que c'est, sauf certains, tu vois, quand c'est le fiancé qui choisit, alors. Mais c'est intéressant de voir que c'est le sacrement qui fait ça. Il y a un fondement naturel. Alors, c'est là où, justement, la grâce va éclairer plus profondément et faire comprendre qu'il y a un certain fondement naturel. Mais je crois, c'est intéressant à creuser ça, c'est un problème à creuser. Est-ce que l'autorité se fonde sur l'amour d'amitié? Posez le problème de cette manière et puis faites vous-même l'enquête. Là, vous avez dit, il y a différents types d'amitié. Il y a une amitié entre supérieur et inférieur. Là, il y a... Ah oui, mais attention, le supérieur et l'inférieur existent avant l'amitié. Donc, c'est pas l'amitié qu'il fait. L'amitié tend vers l'unité. Pas l'égalité, mais l'unité. Donc, elle est au-delà du supérieur et inférieur. Qu'entre un maître et un disciple, il y a une amitié. C'est au-delà. Et cette amitié ne supprime pas le maître et le disciple. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Mais l'amitié ne supprime pas le serviteur. Au contraire. c'est la nature. Donc c'est le point de vue de la matière qui fonde celui qui a autorité, qui n'a pas autorité. Mais alors, on va voir ça, c'est intéressant à voir. Donc, au niveau proprement amour d'amitié, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'amour d'amitié fonde l'autorité. Pour Aristote, l'autorité apparaît à l'intérieur de la famille, entre le maître et l'esclave. C'est le fameux texte d'Aristote sur le maître et l'esclave, qu'il faut regarder de très près, parce qu'on a dit des tas de bêtises là-dessus. Et c'est normal hein, qu'on ait une sensibilité très très aiguisée là-dessus. Puisque pendant des années, il y a eu des injustices là-dessus. Aristote distingue deux types d'esclaves. L'esclave en raison de la conquête et donc en raison de la force, en raison du pouvoir. Les esclaves qui deviennent esclaves par la guerre. Et l'esclave qui est naturellement l'homme moins doué, qui a intérêt à être lié à quelqu'un de plus doué. Mais alors, on ne devrait plus employer le même mot. L'équivoque, c'est qu'on emploie le même mot. Et ça, c'est en raison du temps. Aristote n'a pas changé de mot. On devrait changer. On devrait dire serviteur et esclave. C'est pas la même chose. Ou disciple et esclave. Le disciple n'est pas un esclave. Le serviteur n'est pas un esclave. L'esclave, c'est celui qui est le prolongement du maître. Et comme dit Aristote, qui est un instrument animé du maître. Et donc, il n'a pas sa finalité propre. Alors ça, évidemment, c'est une erreur. Tout homme peut avoir sa finalité. Mais ce qui est juste, c'est qu'il y a des hommes qui sont incapables, en raison de tas de raisons, de tas de choses accidentelles, incapables de découvrir leur vraie finalité. Si je prends esclave, tout homme qui n'atteint pas sa finalité, voyez le nombre d'esclaves qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui. C'est fou. Et on est des esclaves plus. Et l'esclavage est plus terrible que du temps d'Aristote, parce que du temps d'Aristote, l'esclavage c'était par rapport à un maître. Aujourd'hui, c'est par rapport à une culture. C'est par rapport à l'économie. Il y a un anonymat du pouvoir. Parce que être esclave d'un anonymat, c'est plus terrible que tout. On est broyé. Et ça fait comprendre les révoltes profondes qui peuvent exister. Oui. Je crois qu'il faut bien saisir, au plan du philosophique, ce que Aristote nous dit quand il parle du maître et de l'esclave. C'est un passage dans la politique et dans la famille qui est très très important. Qu'il faut tous, je crois avoir lu, et si on sait le grec, corriger la traduction. Parce qu'il faudrait corriger sa traduction des belles lettres. C'est monsieur professeur Le Bourgeois qui a dit la communauté Saint-Jean devrait reprendre toutes les traductions d'Aristote. Et je crois que c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas traduire Aristote si on n'est pas philosophe et si on n'a pas compris le réalisme d'Aristote. Or, la plupart de ceux qui traduisent Aristote sont néoplatoniciens. Alors, ils traduisent Aristote en fonction du néoplatonisme. Alors qu'Aristote, il émerge, il est au-dessus, mais il a des mots qui viennent de Platon. Et il donne à ces mots une nouvelle signification. Et là, c'est très net, c'est un des passages les plus nets. C'est lorsqu'il fait la distinction entre l'esclave qui est dans un état d'esclavage à cause de la puissance, alors qu'il ne respecte pas l'homme dans sa finalité propre. L'esclave, au contraire, qui est celui qui, par nature, est moins doué, par la cause de son éducation, est moins doué. Alors celui-là peut être l'ami du maître. Et en étant l'ami du maître, et en devenant l'ami du maître, il acquiert une liberté. C'est très beau comme conception. Faut pas oublier. Épictète était esclave. Il est devenu philosophe. Donc il ne faut pas dire que ça n'existait pas. Ça existait. Épictète enseignait la philosophie à Rome en l'an 50. Parallèle à Saint-Paul. Et l'homme intérieur et l'homme extérieur, c'est philosophique. Saint-Paul le reprend pour l'appliquer au point de vue théologique. Et au point de vue surnaturel, ça prend une autre dimension, c'est évident. Et beaucoup plus profonde. Mais ça existe déjà, là. Alors, il faut bien comprendre que ce que dit Aristote, au point de vue de la famille, hein, quand il prend les diverses relations qui font de la famille, nous sommes obligés aujourd'hui de voir que la famille telle qu'elle existe, telle qu'elle est naturellement, est beaucoup plus simple que celle d'Aristote, puisque le point de vue de l'économie n'est plus familial. L'économie est sortie de la famille. Et donc la famille, comme telle, s'est simplifiée. Elle s'est simplifiée. En se simplifiant, elle perd de son extension. Elle perd donc de sa force. Elle devrait augmenter en qualité. Et je crois que c'est ça le passage de la famille telle qu'elle est naturellement avec le point de vue de la famille chrétienne. Quelle différence y a-t-il entre la famille au plan humain et la famille chrétienne? Pour comprendre parfaitement la différence entre les deux, il faut qu'il y ait une philosophie de la famille. Or, il n'y a pas de philosophie de la famille. C'est vrai. Alors, pratiquement, on fait une théologie de la famille. Et en faisant la théologie de la famille, on ne voit pas assez le fondement naturel. Ce qui explique les lois actuelles. On ne veut plus du christianisme. Et on croit que la famille, le fondement, il est chrétien. Non, le fondement de la famille est naturel. Et les lois qu'on donne maintenant à ce propos de la communauté, sans regarder le caractère propre de la famille, et sans privilégier ce caractère propre de la famille, c'est quelque chose qui est injuste, puisque c'est contraire à la nature. Mais il y a eu un blocage, vous voyez, il y a eu une certaine vision théologique de la famille qui était du fidéisme. Et le fidéisme est toujours très dangereux parce qu'il fait le lit de l'athéisme. Toujours. Parce que dans une vision fidéiste, vous voyez, on définit l'homme, on dit que l'homme ne peut se comprendre que face à Dieu. Il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de faux, parce qu'on ne respecte pas la nature humaine. La nature humaine se comprend par elle-même. Le point de vue chrétien, c'est du côté de la finalité, et c'est le point de vue de la grâce. C'est quelque chose qui s'ajoute à la nature. Mais la nature existe avant la grâce, et c'est la grâce qui donne une nouvelle finalité. Alors, si on fait le blocage entre la grâce et la nature, vous voyez, ça fait que l'homme n'a plus sa dignité propre. Et c'est contraire à cette affirmation, Dieu a créé l'homme pour lui-même. Il a sa finalité propre. Et on a une vision fidéiste, c'est-à-dire que on dit que l'homme n'a de finalité que par la grâce. Or, c'est l'esprit ces deux positions existent aujourd'hui. Venez, ceux qui ramènent la grâce à la nature, Suarez. Ceux qui font que la nature ne peut se comprendre que par la grâce. Donc l'homme n'est compréhensible que dans sa relation vis-à-vis de Dieu. Alors, il n'y a plus de morale humaine, il n'y a plus qu'une morale religieuse, et même une morale chrétienne. Alors, ça, je crois qu'il faut être très net là-dessus. Quand on veut essayer de faire une philosophie et une théologie de la famille a un fondement naturel. Et si on ne voit pas ce fondement naturel, je crois qu'on brise la nature humaine. Vous voyez, il y a une faute très radicale qui fait que la nature humaine est privée de sa première finalité, l'amour d'amitié, l'amour de l'époux et de l'épouse, et de la fécondité. L'État devient maître de la fécondité. Quand je vous disais la dernière fois, n'est-ce pas, qu'il y avait trois aspects qu'il fallait bien comprendre, comment la personne humaine est au-delà de la cité politique. C'est d'une part l'amour d'amitié, et mettez dans l'amour d'amitié l'amour de l'époux et de l'épouse, et donc la fécondité. Ce sont les parents qui décident la fécondité avec le secours de Dieu, en respectant la loi de Dieu. C'est pas l'État. Quand l'État décide le nombre d'enfants, comme en Chine, eh bien l'État commet une grave faute d'orgueil. Sous aucun prétexte, l'État a le droit de faire ça. Sous aucun prétexte. Là, c'est aller contre la dignité de la personne humaine. Et en allant contre la dignité de la personne humaine, on va contre le regard de sagesse de Dieu sur l'homme. Alors, évidemment, quand on n'a aucun sens de Dieu, c'est pas commode de découvrir la dignité de la personne humaine. Quoi qu'on doit la découvrir. On doit découvrir que l'homme a une liberté, et sa liberté, c'est une liberté qui se réalise en premier lieu dans l'ordre de l'amitié, et que cette amitié implique dans l'amitié de l'homme et de la femme, et dans le mariage, la fécondité. Alors, vous voyez bien que lorsqu'il s'agit justement de ce choix, c'est le choix amical de l'époux et de l'épouse. Est-ce qu'un père de famille a le droit d'imposer à son épouse le nombre d'enfants qu'il veut? C'est une grave question, il se pose constamment. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a autorité là? Ou est-ce que l'autorité sur le nombre d'enfants, est-ce que ce n'est pas l'amour d'amitié des conjoints? Puisque c'est l'amour d'amitié des conjoints qui est la fécondité. L'homme tout seul ne fera pas un enfant. Donc c'est la coopération des deux. Et donc l'autorité pour les enfants, c'est l'amour des deux. Vous voyez, c'est un très grave problème, ça. Et je crains qu'il y ait un peu de fidéisme dans la perspective traditionnaliste. Parce que le traditionnalisme qui a existé, il y a toute une école traditionnaliste. Le traditionnalisme est essayer de saisir comment l'autorité apparaît à l'égard des enfants. Et donc, c'est une autorité qui naît d'un amour d'amitié entre l'époux et l'épouse, source de fécondité pour l'enfant. Et c'est en raison de cette union des deux qu'ils ont la responsabilité dans leur amour à l'égard de l'éducation de l'enfant. Et cette éducation de l'enfant implique nécessairement une autorité et une obéissance. Pas d'éducation sans obéissance, pas d'éducation sans autorité. Je crois que cela, on peut saisir assez facilement. Pour Aristote, je reviens, pour Aristote, l'autorité existe aussi entre le maître et l'esclave. Et c'est une autorité qui a un fondement naturel, puisque le maître, c'est celui qui est capable de découvrir sa finalité. Et l'esclave, c'est celui qui a besoin du maître pour coopérer avec lui en vue de sa finalité. Mais la finalité du maître et de l'esclave, si on a affaire à un esclave qui n'est pas l'esclave de la violence, mais un esclave naturel, doit être la même finalité. Mais il y a à ce moment-là une autorité du maître à l'égard de l'esclave. Est-ce que cela est légitime ? Nous devons corriger Aristote lorsque l'aspect imaginaire l'emporte sur le point de vue de l'intelligence et lorsque, au point de vue politique, le contexte historique, qui au point de vue politique joue énormément. La politique de la France ne peut pas être la même politique que les États-Unis. La politique de la France n'est pas la même que celle de l'Allemagne. Et c'est pour ça que c'est si difficile de comprendre l'Europe. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une fusion. Les États sont arrivés à un âge où ils sont capables de se gouverner. Donc, ils doivent respecter ça. Ils ne peuvent pas abdiquer ça. Le pouvoir politique est naturel. Et on ne peut pas abdiquer cela pour faire des fusions. Autrement, on tombera dans la perspective que les psychologues disent toujours. Vous voyez, la fusion, qui n'est plus l'amitié. Et qui ne respecte pas les deux parties. Et alors à ce moment-là, c'est la perte. L'idéologie marxiste, ceux qui sont dans les pays où il y a eu l'idéologie marxiste a tué, du moins a voulu tuer l'âme des pays. Et c'est ça qu'on ressent le plus. C'est pas uniquement au point de vue économique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que l'idéologie marxiste tue l'âme d'un pays, c'est-à-dire tue le sens politique. Et tue le sens politique dans les citoyens. Et font des citoyens des petits moutons qui n'ont qu'à obéir. C'est une laïcisation radicale de l'esprit religieux. C'est l'antithèse de l'esprit religieux. Il y a une certaine religion marxiste qui fait que l'obéissance devient comme une obéissance religieuse. L'obéissance religieuse est vivable à cause du Christ. C'est qu'on obéit au Christ. Tandis que dans le marxiste, on obéit au QG. On obéit à un petit groupe d'hommes. Et on doit obéir les yeux fermés, sans comprendre. Et c'est ça qui tue. L'obéissance, vous voyez, purement matérielle, l'obéissance aveugle, qui tue la coopération humaine, tue quelque chose de l'âme. Progressivement, il faut un certain nombre d'années, mais 40 ans au désert. Et le désert marxiste, c'est pas le désert du peuple d'Israël. Le désert du peuple d'Israël était conduit par l'Esprit Saint. Et donc, a au contraire fait naître l'âme du peuple juif. Tandis que le désert marxiste tue l'âme du citoyen. Parce que on ne voit plus la finalité. On ne voit plus que le conditionnement. Et c'est dans la dialectique que ce conditionnement est vécu. Alors, il faut bien comprendre ce que dit Aristote à propos de la famille, que c'est la famille qui est la source des rapports économiques entre le maître et l'esclave. Et donc, pour Aristote, l'autorité naît dans le maître à l'égard de l'esclave. Je crois qu'on peut dire ça. Eh bien, ceci, c'est faux. Je ne peux pas dire que l'autorité naît à partir de l'inégalité des hommes. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que l'inégalité des hommes n'est pas un principe. C'est pas un principe. C'est des modalités différentes. Il y en a un riche, il y en a un pauvre. Il y en a un intelligent, il y en a moins intelligent. Est-ce que ça change la nature humaine ? Non. C'est un conditionnement très important. C'est un conditionnement. Je ne peux pas dire que l'autorité naît de celui qui est plus doué. On irait loin comme ça, vous savez. C'est la tentation de l'Amérique, la grande tentation de l'Amérique. Nous sommes les plus forts, donc c'est nous qui avons le droit de gouverner le monde. C'est la tentation américaine actuellement. Et on sait que cette tentation peut mener à l'orgueil collectif d'un pays qui conduit nécessairement à la destruction. On peut se détruire par orgueil, on peut se détruire par infériorité. Il faut voir ça quand même. Et ça, il faut le voir nous philosophiquement. On vit cela. Et comme on le vit, il faut quand même essayer de comprendre ce qui se passe. La lettre du Saint-Père à propos de la guerre du Golfe, c'était très significatif. On dit, le Saint-Père n'a pas le droit de faire ça. Attention. L'Église est gardienne de l'humanité, qu'on le veuille pas. Parce que la tête de l'Église est le Christ, et que le Christ est le roi de l'humanité. Et quand les hommes sont devant un péril d'orgueil, situation limite dans laquelle met l'orgueil, le Saint-Père doit parler comme chef spirituel de l'humanité. Il ne peut pas parler autrement. Il ne peut pas envoyer les Suisses, la garde suisse pour lutter contre le Golfe. Non, c'est impossible. Ça n'irait pas très loin. N'est-ce pas ? Et le Saint-Père le sait. Et c'est du reste son privilège. C'est que le pouvoir temporel est minime. Et l'autorité spirituelle n'a jamais été aussi grande. L'encyclique est du même ordre. La lettre qu'il a envoyée à tous les chefs d'État est du même ordre. Vous voyez, c'est qu'on est en face de situations limites, et le pape doit parler, en tant que chef de l'humanité au plan spirituel. On comprend très difficilement ça aujourd'hui. Mais parce qu'on ne sait plus ce que c'est que l'autorité. Et on confond autorité et pouvoir. Le pape n'a pas un pouvoir temporel sur tous les hommes. Ce serait un messianisme temporel, ça. Mais le pape a autorité spirituelle sur tous les hommes. Et quand il voit que l'humanité est en état, en situation limite d'orgueil, de vouloir distinguer le bien et le mal, et donc de supprimer le poids du moral, le pape doit parler. Même s'il sait que ce sera poursu. Parce que il doit, là, en tant que responsable de l'humanité, s'il n'était pas responsable des hommes, il ne devrait pas parler. Individuellement, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Mais lui, il peut. Et il le doit. niveau politique, surtout au niveau politique. Parce qu'il y a tout un contexte humain, conditionnement, qui est très difficile à bien déterminer. Alors, l'autorité pour Aristote, vous voyez, c'est le maître. L'homme bien cultivé, le bien-né, comme il dit. Le génos, le bien-né. Hein. Celui qui a reçu une éducation plus parfaite que les autres. Les aristotes, les aristocrates, tels qu'Aristote le regarde. Les aristocrates qui sont des hommes bien-nés. Et alors ceux-là sont les maîtres, par nature, sur les esclaves.
Comprenez.
Aristote. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas à cause de ça que je le fais. C'est tout simplement parce que l'autorité du maître et l'esclave est trop conditionnée d'une manière de la situation où Aristote se trouvait. Nous ne devons plus maintenir ça. Mais nous devons maintenir le point de vue économique en dehors de la famille qui existe. C'est évident. Et on verra où ça doit se situer. Entre la famille et l'État. Il ne faut pas rattacher l'économie à l'État. On tomberait de carrément si là. Vous détachez l'économie de la famille et vous la remettez à l'État. Non. L'économie est un royaume, si j'aime, vous voyez, une zone propre, qui a ses principes propres, et dont l'autorité est une autorité de compétence. C'est pas la même autorité. Et qui est absolument nécessaire. Il faut des gens compétents pour le point de vue économique. Autant que possible, ces gens auront une morale qui soit adéquate à leurs compétences, mais quelquefois, ce sont des gens très compétents qui sont d'une immoralité complète. Tandis que l'autorité du père doit être une autorité morale, puisqu'elle doit éduquer. Et donc un père qui n'a pas cette dignité de père au point de vue moral, il y a une répercussion directe pour l'éducation, pour son autorité éducative. Tandis que lorsque on est en présence d'une autorité de compétence, c'est pas la même chose. Mais l'autorité de compétence, elle est toujours dépendante d'une autorité morale. En dernier lieu,